Vous en rêvez depuis toujours? Titi Kaka. Il y a des noms comme ça qui chantent sur la planète. Celui-ci chante plus haut, plus grave bizarrement, plus loin, plus beau, plus bleu, plus... Vous en rêvez déjà? Attendez. On sera à Titi Kaka pour quelques minutes seulement. On a l'impression, lorsqu'on s'y pose, qu'il y a des millions d'années que rien n'a changé. Avant de chanter Titi Kaka, vous devez dire Juliaca. Vous devez dire Soroche. Soroche, ben, c'est ce qui me prend la tête là juste maintenant. Comme si mon casque me serrait un peu trop fort sur les oreilles, ou plutôt sur les tempes. Parce que là, tout à coup, vous venez d'atterrir à Juliaca. Vous êtes venu, pourquoi pas, d'Arequipa, une ville à 2000 mètres d'altitude, 200 jours de soleil par année, ce côté oasis qu'on adore, des maisons coloniales, un volcan qui ressemble au Fujiyama. Vous venez de le survoler, là, juste avec un coup d'aile, vous atterrissez à Juliaca. Juliaca, c'est une piste de 1000 km. Je plaisante à peine. Le grand plateau, ce haut plateau extraordinaire qui débute pratiquement à la sortie du Cusco lorsqu'on arrive par le train et qu'on vient de les terres intérieures et qu'on suit vraiment cette ligne qui va nous ramener jusqu'à Titicaca. Pensez plus loin, La Paz en Bolivie, vous pouvez glisser beaucoup plus bas jusqu'au Salar, vous êtes pratiquement au Chili, en Argentine, 1000 km de plateau. Un plateau qui systématiquement vous fait voguer à 3800 mètres d'altitude. Soroche, c'est ce qui vous prend en tempe. Ben oui, c'est vraiment, vous débarquez comme cela. Dans ce petit aéroport de Juliaca, il y a d'abord une ambiance très particulière. Vous ne regardez pas les bagages, vous regardez ces hommes habillés de rouge avec des... Vous les connaissez, ces petits instruments de musique étranges faits d'une carapace de tatou et qui s'égrènent comme cela à coups de... Oh, c'est une façon de bouger les doigts qui est très particulière. Comme si, vous savez, quand vous dites aïe 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 et que vous glissez sur les cordes, vous avez ce son assez strident. Et puis ces étranges flûtes, ou plutôt ces zampogna, qui donnent un son extrêmement curieux. On nous accueille comme ça à l'aéroport de Juliaca. Systématiquement, vous avez un groupe de musiciens. Vous oubliez vos valises un petit instant, mais faites attention parce que les porteurs sont là aussi et il vaut mieux les surveiller. Vous sortez, il y a du monde, on vous attend et puis vous allez prendre la route pour la première fois. Vous l'avez pourtant déjà survolé. Vous allez baigner dans une couleur très particulière à ces hauts plateaux. Vous êtes au mois de juin, au mois de juillet, peut-être au début août. C'est l'hiver au Pérou et là vous vous retrouvez dans le jaune. Un jaune qui a cette douceur, qui a cette allure curieuse lorsqu'on le prend en contraste avec le bleu du ciel. Un bleu, c'est indescriptible, un bleu profond lorsqu'on est à l'altitude qui nous occupe à 3800 mètres. C'est le bleu des montagnes, c'est ce vrai bleu. Mais les montagnes elles-mêmes sont jaunes elles-mêmes. L'herbe que vous avez autour de vous, vous la regardez d'un peu plus près. Non, ce sont des baladeries finalement. Des baladeries posées les uns à côté des autres. L'ichou, lorsqu'il a poussé, lorsqu'il a eu de l'eau, bien sûr, en saison inversée. J'ai dit qu'on était en hiver et pourtant je parle bien de l'été. Dans les saisons du monde. Mais là, c'est vrai qu'il est vert quelque temps et puis maintenant, il est dur comme du balai de riz. Et vous voyez immédiatement à la sortie de l'aéroport, vos premiers animaux qui font penser tout de suite à notre ami Tintin, ce capitaine Haddock qui avait l'habitude d'avoir des sortes de réflexions étranges à propos de ces animaux étranges aussi, qui se retournent doucement, qui vous regardent avec une binette curieuse, les alpacas, les lamas. Si le hasard le veut, selon l'endroit où nous nous trouvons, il peut y avoir encore une petite vigogne qui traîne dans les hauts plateaux. Mais c'est surtout ces alpacas de couleur terre, de couleur blanc, un blanc cassé comme ça qui va bien sur le jaune, ou alors carrément un peu roux. Ces animaux qui ont cette douceur des camélidés, cette étrangeté du regard, et puis surtout cette moue, ces yeux un peu bizarres, et puis ces oreilles qui bougeotent comme ça. Quelques-unes sont même habillées d'un petit brin de laine, un peu comme les pinks qui se mettraient un petit rien dans le sommet simplement pour savoir à qui ils appartiennent. Et ils sont en troupeau et de temps à autre, il y a un peu d'eau tout de même, des flaques comme cela. Et il y a ce reflet étrange des montagnes qui sont aux alentours. Il n'y a pas de neige à cette saison, mais vous roulez, vous avez l'impression de traverser des villes qui sont grises avec des bouts de train qui traîneraient depuis Cusco ou qui iraient jusqu'à Puno. Et surtout vos premiers Indiens, ou plutôt vos premières Indiennes. C'est la première chose que l'on remarque où là tout à coup le cœur palpite parce qu'on y est vraiment. Il y a bien des jupes de couleurs étranges et un peu fluo comme ça les unes sur les autres. Il y a bien ces jambes nues. Il y a bien cette taille trop serrée, il y a bien ce feutre, il y a bien ce petit chapeau melon, il y a bien cette allure avec les pommettes qui sont grillées par le soleil, ces enfants qui vous regardent avec un peu de morve au nez. C'est vraiment le Pérou des hauts plateaux. Vous y êtes cette nuit, la température là, juste entre Juliaca et Puno, va descendre jusqu'à moins 2, moins 5, moins 10, certains jours jusqu'à moins 20 degrés. L'eau qui aurait traîné se congèlera, on sent la glace, on sent le froid. Et puis, plus loin, quand vous avancez, vous vous dites, est-ce que je vais le voir? Est-ce que je vais finalement le découvrir? Eh bien, bizarrement, le chauffeur vous dit, vous savez, il y a quelque chose d'intéressant à voir avant d'arriver à Puno. Et on vous fait faire un détour, vous grimpez une semi-colline comme ceci, vous voyez quelques andenes. Vous savez ce que sont les andenes? Ce sont ces terrasses, ces fameuses terrasses que les Incas, les pré-Incas aussi de l'époque de Tiwanaku, déjà depuis 2000 ans pratiquement, construisent de façon systématique dès qu'il y a une différence de niveau. C'est-à-dire qu'il faut retenir la terre, même pour les neiges, pour les pluies de la grande saison, et surtout permettre une agriculture qui soit parfaite. Et là, dès que vous avez passé ces premiers niveaux, vous arrivez dans un lieu étrange. La première fois où je suis arrivé à Siyustani, je me suis dit qu'il y avait des lieux magiques, non pas par la géographie même, mais par l'intensité qu'on y ressent. Le paysage a changé. Devant vous, tout à coup, vous avez un rocher curieux, comme une sorte de promontoire. Et au sommet, comment vais-je les appeler? Des phallus géants? Peut-être, oui. Vous voyez cette forme étrange comme des cylindres, avec un réau curieux, une sorte de bordure, un ourlage, si vous me permettez encore, et puis cette forme qui était terminée comme un chapeau. Et puis il y a quelque chose d'étrange, parce qu'elles sont presque plus larges en haut qu'en bas. Et vous voyez qu'elles sont taillées dans une pierre entre le jaune et le rouge, comme cela, et qu'elles forment des doigts qui sont levés vers le ciel. Et vous vous en approchez petit à petit, vous allez grimper. Vous sentez le soroche. Quand je parlais d'avoir les tempes serrées, le mal de tête a commencé, votre cœur palpite un peu, vous êtes toujours à 3800, mais attendez, lorsque vous serez juste à côté de ces immenses doigts de pierre, vous saurez pourquoi vous êtes venu à Siyustani. En plein hiver, tout à coup, le temps peut changer. On sent que le lac Titicaca n'est pas très loin. Les courants, des nuages, des évaporations, des phénomènes comme cela qui font que le ciel, tout à coup, se met en mouvement. Il y a du noir qui s'approche. Du noir avec des nuages énormes. Vous êtes au sommet, vous venez de découvrir ces immenses tours de pierre. Elles vous fascinent parce qu'elles sont lisses, merveilleusement taillées. Vous savez l'histoire du petit rasoir qu'on voudrait glisser entre deux pierres. C'est aussi parfait que ce qu'on trouve à Machu Picchu ou au Cusco. Là, à Siyustani, ce sont des tombes. Oui, ce sont des endroits où l'on mettait comme dans des ruches, des momies, sur une certaine hauteur. Il y a juste une petite entrée qui donne sur l'est. Oh, elle est au niveau du sol, elle fait à peine 35-40 cm de hauteur sur à peine 50 de large, ou peut-être un peu plus, 50-60 de haut, ça dépend des tours, et vous pouvez à peine vous glisser à l'intérieur. Et dedans, vous êtes dans une véritable ruche. On l'a faite en forme de ruche, en forme conique, et on imagine ces hommes qui étaient enterrés en forme, disons, habillés naturellement, mais avec un intérieur en foetus, vous voyez, le véritable cocon, la véritable momie telle qu'on l'imagine toujours dans Tintin. Et ce qui est étrange, c'est que le ciel vient de se brouiller, il est de plus en plus noir, il tourne maintenant à l'acier, il va devenir carrément métallique au point de se durcir, et là, vous avez le premier choc. Et c'est impressionnant parce qu'on a vu en arrivant que certaines de ces tours avaient été foudroyées, et c'est le cas. Tout à coup, les éclairs descendent du ciel et vous les voyez tomber tous au même endroit, près des tours, sur les tours, et puis en face, parce que vous venez de l'apercevoir, il y a un lac encore plus étrange. Il est noir à cette heure-là, il ressemble à un plateau, à un cercle parfait, et au milieu du cercle, il y a une petite île qui a pratiquement la même forme et qui monte comme quelque chose de tronconique, de parfait, comme si c'était une construction inhumaine. Et là, vous remarquez que les éclairs tombent en plein centre de la même manière et tout à coup vous sentez sous vos pieds un magnétisme, du métal, quelque chose de fort. Soyez précolombiens, vos dieux sont si près lorsque les éclairs vous tombent. Sur ces tombes. Ah si, un petit lézard. Ah tiens, un petit serpent en forme ondulée, comme l'éclair qui vient de tomber du ciel. Il tombe, comme je l'ai dit, de façon tout à fait curieuse. C'est bien le magnétisme qui a intéressé les Indiens, parce que là, on sent qu'on est dans un endroit magique. Et c'est seulement à cette heure grave, à cette heure noire, qu'on comprend la puissance des éléments. Vous êtes toujours à 3800 mètres d'altitude, un nuage a changé, il est plus blanc. Un peu de grêle, un soupçon de neige, il y a d'autres saisons au bord du Titicaca. Le soleil est revenu, parfait, lumineux. Lumineux comme un soleil inca, comme un soleil de Tiwanaku, comme la porte du soleil de Tiwanaku. Un endroit qui nous dit qu'effectivement l'intensité, cette force absolue qui peut passer comme cela d'une amplitude, imaginez-vous, la nuit dernière il faisait moins 12. Maintenant là, aux alentours de midi, il fait 25, 27, 30 peut-être. Et la force de ce soleil vous impressionne, vous commencez maintenant à regrimper sur une autre colline. Et là, pour la première fois, vous découvrez une toute petite ligne noire, celle du train. Et vous le voyez tout à coup glisser dans des marais avec des roseaux. Et les roseaux continuent, l'eau continue. Vous êtes devant une mer intérieure, tout au fond, une espèce de frise blanche, la cordillère royale de Bolivie. Vous êtes devant ce lac, le Titicaca. Dernière colline, dernier détour, et du gris. Oh, une espèce de, que pourrais-je dire, de grenaille grise. Comme si au fond d'un estuaire, dans la partie la plus arrondie, je fais presque le mouvement avec ma main comme cela pour donner le confort. Et pourtant c'est un endroit dur, c'est un endroit difficile. Puno, les petites ponctuations des toits qui ne sont plus en tuiles, qui sont en tôle. Cette tôle qui a une couleur très étrange, bleutée. Grise, c'est une ville qui est devenue énorme. Il n'y a pas grand-chose à voir à Puno, non, mais il y a une ambiance. Toujours ces Indiens, cette façon d'imaginer, vous les avez croisés, tous ces paysans qui viennent un jour ou l'autre à Puno, ces gens qui viennent étudier à Puno, ces centaines, ces milliers d'étudiants qui sont là parce que c'est une université des hauts plateaux. Ça n'a rien à voir avec Juliaca, qui est la commerçante. Puno, c'est l'endormie. L'endormie de la colonie, celle qui a vu passer des tonnes d'argent qui sont venues de Potosi et de la Bolivie. Cet endroit qui a gardé ce côté à la fois gris que j'ai évoqué, mais surtout terre, couleur de pisé. Et puis, au centre de Puno, lorsque vous aurez un instant à travers ces rues un peu piétonnes, à travers ces marchés, à travers ces préparations de gare, ces préparations de marché, cette façon de bouger, de vendre, d'échanger, vous allez trouver une place avec quelques arbres découpés de forme étrange et pour la première fois un bel immeuble colonial, la cathédrale de Puno, celle qui vous fait penser à ces images d'enfance avec les carnavals de Puno, ces grands carnavals avec ces espèces de masques qui ressemblent presque à des grenouilles exacerbées, avec des cornes, avec des couleurs impossibles. Oui, c'est devant cette cathédrale où vous avez uniquement une croix colorée. Vous avez déjà vu ces croix catholiques assez curieuses des hauts plateaux où l'on place, c'est vrai, le linceul du Christ juste comme un rideau autour des deux bras de la croix. Et puis autour, vous avez l'échelle, vous avez les clous, vous avez le coq. Vous avez tous les éléments qui ont fait la passion, les différents symboles, les différents instruments de la passion. Très coloré, très vivant, sur une façade qui est plutôt beige rosé, d'une belle pierre, qui est complètement travaillée, comme si vous aviez envie d'être encore plus indien, d'aller chercher un jaguar, un bout de fleur, un bout de pampre avec des formes comme cela très baroques qui remplissent toute la façade avec quelques saints, qui ont des bouilles d'indiens, qui ont des bouilles étranges, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'Espagne propre. Ça sent un peu l'Amazonie, ça sent un peu le jésuite, ça sent un peu les missions de la première époque. C'est un peu comme si en partant de Puno, vous imaginiez qu'à après la Bolivie, vous avez l'Amazone. Après l'Amazone, vous aviez le Paraguay, l'Uruguay, le Brésil. Des pays qui font penser au Rio de la Plata, le Rio de l'argent. Vous êtes dans le pays de l'argent. Puno, c'est triste, peut-être aujourd'hui. C'est moins gai que ça devait l'être au XVIIe ou XVIIIe siècle, lorsque transitaient ces lingots d'argent et lorsqu'arrivaient ces pièces de monnaie qui étaient envoyées jusqu'à la cour d'Espagne et qui transitaient par Arequipa et Lima. Mais là, vous avez le spectacle qu'on vient de voir. Cet estuaire qui, maintenant, est un peu dégorgé, un peu nettoyé, qui a été un peu dépotoir et qui maintenant ressemble enfin à un lac. On a eu le même problème avec nos lacs. Et là, cet estuaire fermé est étrange parce que lorsque vous êtes dans le port, vous vous dites, je suis sur le plus haut lac navigable du monde. Il doit faire quelque chose comme 9000 km². Il doit faire quelque chose comme, je ne sais pas, 120 km de longueur. Je n'ai plus les distances en tête, peut-être 60 de large. C'est simplement pour vous montrer qu'il est énorme. Il a quelque chose de beaucoup plus grand que nos lacs à nous. Il a quelque chose de plus majestueux par son altitude et par la distance des chênes et des cordillères qui sont à l'horizon. Et puis il y a là, tout à coup, des vieux bateaux. Des bateaux qui remontent à 1890 ou 1900, qui sont les mêmes qu'on a au bord de notre Léman et qui fonctionnent encore. Là, ils sont un peu en rade. Mais on a l'imagination qui commence à devenir fertile. Vous partez d'Angleterre avec un moteur, vous partez avec des pièces détachées, vous les faites monter à dos de lama, vous les faites monter à dos de cheval, et vous montez un bateau sur ce lac et vous commencez à le traverser. Eh bien, à l'époque précolombienne, on utilisait uniquement ces barques de totora. Vous savez, ces roseaux qu'on a aperçus tout à l'heure, qui sont assez hauts, qui ressemblent à de gros papyrus, si vous voulez, eh bien, l'Indien va le couper parce qu'il pousse en général jusqu'à 1 mètre, 1,50 mètre de profondeur dans l'eau. Le lac varie beaucoup, hein. Il fait à peu près 300 mètres de profondeur dans sa partie la plus forte, c'est-à-dire au centre, mais sur la bordure, selon la saison. C'est un lac qui n'a pratiquement pas de sortie sur le plan rivière et qui n'a pratiquement pas d'entrée non plus. C'est-à-dire que c'est uniquement la surface, la pluie et la région qui nous occupe qui crée l'alimentation même du lac. Et c'est vrai que ce qui est curieux, c'est qu'il peut varier souvent de 2 ou 3 ou voire 4 mètres selon les saisons ou selon les années. Donc il y a des moments tragiques et des moments bénéfiques. Et ce qui est curieux aussi, c'est sa température. Je vous ai dit, nous sommes à 3800 mètres et il ne gèle jamais ce lac. Non, au contraire, avec la condensation, avec le phénomène journalier qui fait que monter à 30 degrés et redescendre à moins 10, eh bien curieusement, l'heure où le lac est chaud et vous pourriez vous y tremper pratiquement, ou en tout cas y mettre le doigt, les Indiens se baignent lorsqu'ils vivent sur les îles où nous irons tout à l'heure, eh bien au petit matin, vers 4-5 heures, il peut monter jusqu'à 15-16 degrés. Et il redescend des fois jusqu'à 7-8 degrés dans la journée. Au moment où on imaginerait qu'il est le plus chaud. C'est normal, c'est sa surface, c'est l'altitude, c'est un phénomène qui est propre au lac Titicaca. Vous y êtes, vous prenez le premier bateau qui est là, juste dans ce port très animé. Vous avez pris un pouce-pouce pour descendre à travers les petites ruelles. Vous avez passé devant la gare qui vous amènerait au Cusco, encore un rêve à réaliser au Pérou. Et puis, vous montez sur une construction un peu curieuse. Ça tient du moteur de Volkswagen avec un soupçon de bois et carie à la hache. Et vous avez compris dès que vous êtes assis à l'intérieur. Il est couvert, il est confortable, il y a quelques fenêtres, on peut être abrité. Mais c'est un Indien qui le conduit. Il a été construit à Taquilé. Taquilé, comment vous expliquez où se trouve Taquilé? C'est une île. L'île qui est vraiment à la sortie de cet énorme estuaire. C'est comme si vous mettiez vos deux bras ensemble et que vous laissiez juste la place pour sortir entre vos deux doigts à la fin de votre embrassade comme ça. C'est un véritable défilé. Et à l'intérieur, dans la grande partie du lac, il y a cette île comme un rocher rougeâtre, jaunâtre, qui se profile. Et les Indiens ont créé un petit endroit comme cela pour leur force navale, si j'ose dire. Et ils ont construit eux-mêmes ces bateaux et ils ont le monopole de pratiquement tout ce qui circule sur cette partie du lac. Il y a encore des bateaux avec des grandes voiles blanches ou ces totoras de roseaux. Et la preuve, c'est qu'à la fin de l'estuaire, il y a encore ces mêmes îles flottantes qui existent depuis des millénaires et qui sont même, je dirais, en augmentation aujourd'hui à cause de vous, à cause de moi, parce qu'on veut voir ces îles flottantes, on veut voir ces Indiens qui vivent sur des espèces d'éponges trempées sur lesquelles vous marchez et vous vous enfoncez doucement. La dernière fois, j'y suis allé chez les Uros, j'ai vécu un moment intense, un mariage. Un mariage, c'est les vrais mariages aquatiques. Vous savez, on arrive par bateau avec la fanfare et on s'installe sur ces choses qui bouge et on danse comme cela. Ça, c'est très étrange. C'était la première fois que je dansais à 3800 mètres d'altitude sur quelque chose qui, effectivement, vous donne l'impression l'éponge mouillée, carrément. Simplement qu'il faut sans arrêt remettre de la paille pour que l'île tienne encore et ne coule pas. Certaines sont même amarrées aujourd'hui parce que la modernité veut qu'on choisisse les meilleurs endroits, c'est-à-dire les défilés où passent le plus de bateaux possible ces touristes qui vont un peu plus loin. Alors, on construit de nouvelles îles, on met quelques baraques dessus, quelques habitants, on vient vous vendre quelques souvenirs, un peu d'artisanat. Et lorsque vous sautez sur une de ces îles, vous avez à la fois l'étrange impression que nous leur rendons service et qu'en même temps, il y a un côté kiosque à coucou cloque posé sur l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à la fois un... J'y ai même dormi, ça n'est pas évident parce que naturellement, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'arbres. Vous êtes sur de la paille grossière, si vous voulez. Donc, quand vous avez quelque chose à jeter à la poubelle, vous pouvez toujours attendre, ça reste sur la poubelle. En dehors de cela, c'est assez confortable, bizarrement, parce que l'Indien a conçu, grâce à ces roseaux, tout un système de construction. Non seulement les bateaux, mais carrément, maintenant, on voit même apparaître des miradors, et puis vous avez l'école, vous avez l'infirmerie. Tout cela, petit à petit, prend corps, et finalement, quelques milliers d'habitants se sont maintenant installés, là, juste à la sortie de l'estuaire. Oublions-le, on commence à pénétrer à l'intérieur du Grand Lac. Et on voit se profiler maintenant deux îles à l'horizon, juste après les dernières côtes que vous avez sur la gauche. Deux îles qui sont posées comme un chat se coucherait doucement sur le sol. Elles sont là sur cette immensité bleue, mais un bleu qui n'a plus rien à voir avec celui du ciel. À cette heure-là, ça frise un tout petit peu. Le bateau roucoule doucement parce que le moteur Volkswagen fonctionne avec des bouts de bâton, avec quelques ficelles. Il est assis derrière. Il porte un simple bonnet sur la tête, rouge, qu'il a tricoté. Le suivant, il est déjà en train de le faire. Il conduit son bateau. Il a ses deux aiguilles en main. Il est de Taquilé. C'est un vrai Quechua. Encore un peu de soroche. Les tempes battent toujours. Il n'y a qu'un moyen, c'est l'oxygène. Et c'est vrai que les touristes les plus chics descendent à l'hôtel Esteves qu'on vient de dépasser, là, qui est posé sur un rocher comme une espèce d'épave blanche superbe. Eh bien, juste à côté de la réception, vous allez respirer quelques minutes d'oxygène pur et le soroche s'en va, comme par miracle. Oh, moi je prends simplement une petite pastille, un petit vasodilatateur. Ça suffit, hein? Ça vous remet le cerveau en place, ça refonctionne. Mais il y a quelque chose d'étrange. Depuis que vous êtes arrivé sur le lac, vous avez l'impression quand même que vous décollez un peu trop. Il est calme. Pas le lac, non, l'Indien qui conduit. Hallucinant. Il a des yeux qui regardent à l'horizon et il connaît son île comme s'il était né dans cette île avec les yeux posés sur l'île. Il ne bougera pas. Il tricote en même temps. Il est calme. Il est tellement calme. À quoi pense-t-il? Il a construit son bateau en coopérative. Il circule 3 heures, 4 heures, ça dépend de la façon dont il aura mis le petit bâton sur l'accélérateur. Le rythme lent ne lui fait pas peur. De temps à autre, très rarement, il regarde le ciel. Ce ciel qui va lui dire si le Titicaca peut se fâcher, c'est le grand jaguar. Lorsqu'il arrive comme cela, comme on aurait le joran sur notre léman, bon, je ne fais pas tomber le romantisme, mais quand ça tombe dessus, oui, c'est vrai que c'est très fort. Le vent peut tourner d'un seul coup. Si vous oubliez que l'après-midi, vous devez partir plus tôt des îles pour rentrer ou changer d'île, et il peut vous arriver des choses assez curieuses. Je me rappelle du même temps que nous avons eu tout à l'heure à Siyustani. Tout à coup, tout a tourné au noir. Et le noir s'est changé en blanc, quand tout à coup, j'ai pris sur la tête, j'avais mis une grosse doudoune bien confortable, il fait froid quand même, dès que le pot-pot-pot-pot se met en route, un petit courant et vous avez froid. Mais sur la tête, ça fait beaucoup plus mal, c'est le premier grêlon. Oh, le petit grêlon façon pièce de 5 francs, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous en avez quelques milliards qui tombent dans le lac, ça fait très vite bobo. L'Indien ne se fatigue pas. Il baisse un peu le moteur, il va s'installer à l'abri et il attend que le bateau se remplisse de grêle. Il était 17h. Il était 18h. Le bateau ne ronronnait plus. Mais la grêle, oui, elle était toujours là. Ça ne fond pas tout de suite, la glace. Non, 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 non. Le fond du bateau devait en avoir 25 cm peut-être. Très confortable sur un moteur de Volkswagen, ça mouille. En l'occurrence, une fois qu'on a dégagé la grêle, ce qu'a fait gentiment l'Indien, mais il a quand même passé 3 heures au fond du bateau à déballer son petit mouchoir, duquel il a sorti ses pommes de terre lyophilisées. Vous savez qu'il les lyophilise par la congélation et le fait de les remettre au soleil. Ça refond, vous mettez vos petits petons dessus, vous tapez bien fort, l'eau sort, vous regelez, ça enlève petit à petit toute l'eau. Et vous avez quelque chose de léger, mais léger, comme du Sagex. Des pommes de terre Sagex, voilà, c'est ça. Avec un côté pop-corn léger, vous voyez. Et en fait, vous y mettez un peu d'eau et vous mangez. Bah, pendant 3 heures, ils ont grignoté, parce qu'ils étaient deux, leur chugno, leur pomme de terre. Et puis, quand la grêle s'est arrêtée, ils se sont dit peut-être qu'on a un bateau. On avait dérivé, il commençait à faire nuit. C'est très beau, les lumières de Puno, très à l'horizon, comme ça, quand vous êtes à 15 ou 20 kilomètres. Et puis, vous avez le voisin qui dit, on pourrait pas avoir des fusées de secours sur le lac Titicaca. Bah oui, il faut avoir un peu d'humour. Non, on attend simplement de dégager, et puis on se dit, est-ce que ça va sécher par hasard? Ah, il y a un tout petit rien d'humidité sur le charbon. Il suffit de frotter un peu. Tout, et l'on repart. Il est génial son gouvernail, c'est un simple morceau de métal qu'il tient comme ça, il vient de lâcher ses aiguilles, et il le tient comme ça comme on serrait le coude, vous savez, il est assis sur le bord arrière du bateau, les pieds sur le banc ou la banquette sur laquelle vous-même vous pouvez vous asseoir, et puis là, il vient de regarder à travers la vitre et il vise, on pénètre dans le port, et c'est étrange parce que tout à l'heure, en discutant avec lui, j'observais sa ceinture, et puis ses petites ceintures secondaires qu'il porte autour de son sac ou de sa sacoche, qui elle-même est faite de laine, tout ce qu'ils tricotent, tout ce qu'ils font au crochet, tout ce qu'ils arrivent à faire comme artisanat a une signification. Même son bonnet a des petits dessins. Et en rentrant dans le port, tiens, j'ai remarqué qu'il avait une forme de S, mais un S assez cassé comme ça, vous savez, un S avec des angles fermés pour être bien protégé. Entrée, couloir, et puis vous allez vous cacher tout au fond. C'est curieux, sur sa ceinture, il y a le même dessin. Et sur ce dessin, il y a un tout petit drapeau sur le côté. C'est la fête dans le port. Juste à côté, il y a un petit gâteau. Je parle du dessin, je parle de sa ceinture. Elle est rouge avec des motifs un peu grenat, un peu blanc comme cela. Et parfois un peu de bleu. Enfin, beaucoup d'imagination, mais une rigueur extraordinaire. Un petit gâteau, oh, c'est plutôt un hexagone. Avec à l'intérieur les lignes qui coupent l'hexagone, c'est-à-dire le gâteau. Et à l'intérieur de chaque tranche de gâteau, un petit point. Et vous vous dites, tiens, c'est marrant, on dirait une répartition des choses. Et vous regardez autour de vous. Il y a des centaines, des milliers de terrasses qui se dessinent sur cette île qui fait quelques kilomètres de longueur seulement, il y a à peine 1000 et quelques habitants. Et là, vous vous dites, mais c'est vrai, il y a de la pomme de terre, il y a du maïs. C'est la répartition des différentes céréales et des différentes choses qu'ils cultivent. Donc leur ceinture devient tout à coup une écriture. Ils racontent les 6 derniers mois de l'année, les aventures, le mariage, la mort. Tiens, je viens de voir un bateau de Totora passer. Le mort est emballé comme dans un linceul. Il glisse doucement vers un cimetière marin. On croit rêver, Titicaca. Quechua. Pourquoi Quechua quand on est un pays Aymara? Je veux dire, les Aymara sont ceux qui étaient les princes de Tiwanaku. Cette citadelle, cet incroyable centre qui se trouvait auparavant sur les bords du lac Titicaca, quand on part du côté de La Paz. Non, on est Quechua sur ces îles. Pourquoi ? Comme on était Uros tout à l'heure et qu'on était isolé sur des îles de roseaux et qu'on n'avait rien à faire d'autre que de remplir des... Vous savez qu'on prenait des tubes, ça c'était l'Inca qui l'avait exigé. Je parle de conquête, je parle de la dernière grande conquête de cette région. L'Inca exigeait aux Uros de leur livrer chaque année leur tribu. Et vous savez ce que c'était ? Eh bien c'était des simples petits tubes, le pen de la plume. Vous savez, la partie intérieure de la plume fait un véritable petit tuyau qui peut être complètement évidé par la nature. Et là, eh bien, on leur exigeait d'en livrer des milliers. Vous savez ce qu'ils mettaient dedans ? Leur pouls. Tout simplement pour faire quelque chose, pour prouver qu'ils étaient capables de donner quelque chose à l'Empire. Tout simplement pour faire travailler les Uros, qui eux ne pêchaient que quelques poissons et attrapaient quelques canards. Mais sur ces îles, on a implanté des Quechua. Ils sont venus du Cusco, ils sont venus de la région de Machu Picchu. On les a déportés volontairement pour créer des mitimae, comme on les appelle, ou en tout cas des petits îlots justement de langues différentes pour habituer les Aymaras. Mais les Aymaras sont très forts. Ils entourent pratiquement tout le lac et prennent pratiquement toute la Bolivie encore aujourd'hui. Le Quechua n'est pas rentrer partout. Mais sur ces îles, on a vraiment une autre culture, une autre façon de voir les choses. Laissons peut-être pour quelques instants les gens de Taquile à leur champ, à leur ouvrage, à leurs pommes de terre et à leur religion aussi, puisqu'on l'évoquait par rapport à cette culture différente. Et allons peut-être pour quelques instants glisser encore plus loin sur ce lac jusqu'à Amantani. J'ai envie de vous faire rencontrer Pablo, Francisca ou Francisca, comme on le dirait à l'espagnol, et puis leur fils Hernan, leur petite fille Cecilia, parce que sur ces îles, non seulement il n'y a pas de bruit, vous entendez le silence ? C'est quelque chose d'impressionnant. Il n'y a éventuellement que le clapotis de l'eau si vous êtes près du port. Il y a peut-être quelques oiseaux parce qu'ils vivent encore à 3800 mètres d'altitude. Il y a encore des arbres, quelques eucalyptus qui ont été plantés, qui font un bruit particulier lorsque le vent se lève, bien sûr. Il y a ce soleil qui bizarrement ne paraît pas silencieux parce qu'il marque l'espace de façon très curieuse. Il y a cette lune qui vient de se lever toute pleine du côté de la Bolivie et qui monte petit à petit dans le ciel en même temps que Vénus qui se déplace. Et puis des milliards d'étoiles qui viennent de s'allumer. Une voie lactée comme vous ne l'avez jamais vue au monde. Toujours pas de bruit. Oh, peut-être un chien, éventuellement. Un chat, pourquoi pas. Sur une île, on peut encore vivre en chat. Ailleurs, on vous aurait mangé. Et puis il y a la douceur de ces petites maisons qui sont posées les unes à côté des autres avec des murettes partout. Cette façon d'isoler le petit jardin, d'avoir encore une terrasse, d'avoir un peu d'oignon, un peu d'eau qui vient d'une source, enfin des îles qui vivent, qui tout à coup vous montrent qu'on peut faire vivre 1500 habitants sur à peine 10 km de côté, et qu'en même temps vous pouvez monter jusqu'au sommet, jusqu'au temple le plus sacré. Nous irons tout à l'heure chez Pachatata, chez Pachamama, les grands dieux de l'univers Inca. Et là, ces Quechua de l'île d'Amantani vous accueillent. On voit arriver le bateau. Oh, c'est un port encore plus petit que celui de tout à l'heure. Et là, vous avez fait déjà tout le tour de l'île. Vous voyez cette impressionnante construction. On dirait que toute l'île a été rongée par les hommes, a été travaillée par les hommes. Il y a une nature très forte. Il y a des rochers nus, bien sûr. Mais il y a surtout ces milliers de terrasses que j'évoquais. Et là, vous êtes en bas, dans la partie peut-être la plus douce, parce que tout à l'heure, sur Taquile, vous avez dû monter de 3008 à 4000. Ça a l'air de rien, 200 mètres en vertical. Et quand vous voyez les Indiens qui portent tout ce qu'ils ont ramené de Puno, les tôles, s'ils en ont besoin, des poutres, parce qu'il n'y a pas de bois, et qu'ils chargent tout cela sur leur d'eau, quand vous êtes en haut et que vous arrivez sur la première arche et que là vous imaginez tout à coup le paysage entier sous vos pieds et que vous vous retournez en découvrant l'infini du Titicaca, il y a quelque chose non seulement qui vous oppresse, le soroche, ça n'est plus cela, c'est carrément le souffle qui vous manque. Et là, sur l'île d'Amantani, quand vous arrivez chez quelqu'un, eh bien j'aimerais simplement que vous imaginiez... parce que vous êtes venu avec quelques cadeaux, avec quelques marchandises, quelque chose à boire, quelque chose à manger. On va vous nourrir, vous allez trouver une chambre, vous allez trouver un petit patio avec des hibiscus, une couleur juste barbouillée, vous savez, cette façon de peindre où l'on prend simplement le pinceau et on gicle contre la paroi. Oui, une ambiance très sympathique finalement, parce qu'on redécouvre tout à coup la simplicité absolue. Francisca, elle porte son costume indien, elle a ce châle somptueux, presque bleu, marine, encore plus marine que la nuit du Titicaca, avec des petites fleurs qui sont gravées dessus, qui sont dessinées, brodées. Il y a la cantuta, la fleur de l'Inca, cette petite fleur rouge que vous trouvez sur le coin des chemins, en buisson. Il y a aussi cette jupe bien particulière qui la serre toujours à la taille, mais qui est différente de celle qu'on voit du côté bolivien. Il y a surtout cette façon de fonctionner. Vous rentrez dans sa cuisine, il y a d'abord beaucoup de noir. Beaucoup, beaucoup de noir. Tout est en fumée, bien sûr. Il y a juste une petite construction de pierre sur laquelle on aura posé une autre petite construction d'argile qui fait plus ou moins fourneau avec... c'est le problème. Que va-t-on brûler là-dedans? Éventuellement quelques bouses de vache, parce qu'il y a quelques animaux, un petit rien d'excréments de lama ou d'alpaca, si on en a dans le coin, et puis un peu d'eucalyptus, si on arrive à en trouver. Enfin, tout ce qui est bon à brûler va se glisser à l'intérieur pour devenir très concentré. Un feu minima qui est simplement en train de réchauffer une petite cruche dans laquelle on aura mis un peu de maïs, quelques herbes qu'on a pris dans le potager, quelques tomates. On a une impression de fonctionner dans la nature avec le lac, naturellement, quelques poissons, peut-être un canard écrasé dans une poêle, mais vraiment comme un steak, on ne se fatigue pas, on prend un gros caillou, on lui tape bien dessus et on le rôtit avec un peu d'huile. Et puis vous vous êtes assis sur de simples planches, il y a une bouteille d'alcool, il y a une vieille bouteille de bière, une bougie, parce que ce soir, naturellement, il n'y a pas de lumière, et très souvent, il n'y en a pas. Donc on vit vraiment comme si tout à coup, on était... non pas un siècle, mais des siècles en arrière, dans une ambiance très douce. Pablo vient de s'asseoir à côté de vous et puis vous lui avez dit « Est-ce que tu as quelque chose à boire? Est-ce qu'on peut s'offrir quelque chose à boire ?»« Ben pourquoi pas, une bière. » Alors on va en chercher quelques-unes. Il y a quand même une petite boutique près de l'église, tout en haut, une petite église qui fait quelques mètres de hauteur. À travers les murettes, on fait des courses, on revient et on vous offre la bière dans un grand verre. Un seul verre, une seule bouteille et vous commencez par le chef de la maison, et c'est très beau parce qu'à l'instant où il a commencé à remplir son verre, la première chose qu'il fait, c'est naturellement le vider en partie. Il y a déjà beaucoup de mousse au départ, hein, c'est toujours le cas lorsqu'on... et il le jette par terre et il dit effectivement Pachamama, déesse de la terre, et il regarde la tâche qui est au sol. Moi je me rappelle lorsque Pablo l'a fait pour la première fois avec moi, il a créé une croix absolument parfaite au sol. Il m'a dit, toi tu dois avoir quelque chose à voir avec cela. Curieusement, j'ai une croix de fer dans mes armoiries. Vous savez, on commence à rêver comme ça, on commence à penser. Et pour eux, tout est interprété. Vous venez de faire une première offrande, on commence déjà à lire. Dans quelques heures, après le repas, son frère, Jesus, viendra s'installer sur un lit bas, juste à côté de votre chambre, au milieu du patio. Et là, il va sortir un sac de laine avec toujours ces mêmes couleurs vives. Et vous entendez un crissement curieux. Pour la première fois, vous les sentez, vous les voyez sortir, les feuilles de coca, le moment de la magie, le moment de la sorcellerie, le moment de la divination va commencer. La nuit est étoilée, la lune vient de sortir. Vous êtes à l'intérieur de ce qui peut servir de salle de réunion, de salle à manger, de salle à tout faire. Vous avez compris tout à l'heure, qu'en jetant la bière par terre, nous étions sur de la terre battue, bien sûr. Et là, effectivement, sur quelques couvertures, eh bien, on va s'installer. On s'installe pour la nuit. Admettons que l'on soit vendredi, ça vous va? On ne fait rien en magie le vendredi. On attend le samedi. Bof, minuit, ce sera le début de quelque chose. Vers 6 heures du matin, Vénus va s'éteindre, le feu, l'offrande au milieu du patio aussi. Mais vous aurez peut-être les 9 heures les plus incroyables de votre vie. Regardez un Indien dans les yeux. Il a quelque chose tout au fond. Il voit quelque chose à travers vous. Il est sorcier. Il vient de sortir ses feuilles de coca et il commence à les poser sur un ensemble assez curieux, c'est-à-dire un petit tapis de laine, je dirais presque de feutre. Vous savez, lorsqu'on arrache les poils les plus doux d'un alpaca ou d'un lama et qu'on les dépose pour faire une sorte de fond, eh bien vous prenez une feuille de coca et Pablo, le voisin de Jésus, prend la feuille et dépose dessus une toute petite partie qu'il a découpée avec son canif de suif, du suif de l'amas bien blanc, comme du lard gras si vous voulez. On pose ça sur la feuille et puis on demande quelque chose, on commence à parler quechua, on ne parle que quechua, vous commencez à comprendre le quechua. Ronaldo, votre ami qui vous accompagne, traduit. Il est très touché, tout à coup il se sent complètement pris, il a vécu 9 mois sur cette île et il comprend que quelque chose de fort va se passer. Et puis il y a Hernan, le fils de Pablo, il y a Francisca qui s'est assise à côté de moi, qui me sourit, qui a compris qu'on avait déjà une certaine complicité. J'avais trouvé un gros caillou dans la journée, elle l'avait observé. C'est peut-être une waka, il y a peut-être quelque chose de magique. Et oui, c'est une météore qui est tombée un jour du ciel. Et puis à l'autre bout, Hernan qui, on le sent un peu coincé, il a presque des miroirs dans les yeux. Il cherche une femme. Lorsqu'on cherche une femme à Mantani, on sort la journée en plein soleil. On prend ce tout petit miroir dans les mains et on cherche la jeune fille qui est là-haut dans les Andenes, dans la terrasse. Si elle répond du miroir, peut-être que vous vous mariez dans l'année. Est-ce que c'est noté dans les feuilles de coca ? C'est incroyable de penser qu'un Indien remet son bonnet, remet sa tunique, remet son poncho, comme vous l'appelez. Il s'habille comme un prêtre. Il fait chaud dans la pièce, parce qu'on est nombreux. Même si nous sommes 5 ou 6, on est nombreux, la pièce est toute petite, elle fait 2 sur 3 peut-être. On a une impression de concentration. Et puis il y a cette laine qu'on a dévidée, il y a ce suif, cette odeur, il y a l'odeur de la feuille de coca. Et puis ensuite, lorsqu'on a vraiment préparé l'offrande, lorsqu'on a demandé à chacun ce qu'il voulait, ce qu'il demandait, ce qu'il avait à voir avec les dieux, Pachamama, Pachatata, les 3 niveaux du monde, eh bien on sort, comme une véritable cérémonie, on se rhabille tous, je veux dire qu'on imagine que nous allons sortir voir le monde, voir les choses. On s'installe au milieu du patio, on allume un feu, on y dépose l'offrande, elle monte vers les dieux et l'on rentre. On la laisse brûler, on a mis de l'alcool, des choses étranges, on a fait des mélanges. Une offrande peut être très complète, on peut aller jusqu'au foetus de lama, desséché. C'est tout petit des fois, les plus petits font à peine 10 cm de longueur. Ah non, on n'a pas fait avorter le lama, il suffit d'un bon coup de froid, ça tombe tout seul. Toujours aussi chaud, toujours l'intérieur, et puis... cette ambiance qui commence comme cela. On a dépassé minuit, bien sûr, puisqu'on vient de brûler l'offrande. Et puis on discute de notre avenir, du destin de chacun. Francisca a ressorti le caillou, et puis elle s'imagine des choses, elle demande d'autres choses. Là, on se rend compte tout à coup que ces gens-là glissent dans un monde absolument magique. On est tout seul au milieu de cette île, dans ce silence étrange, et l'on va passer des heures, simplement, parler du sorcier. Essayez de prendre votre main, de l'ouvrir à moitié et de la secouer, comme un petit shaker, mais très doux, comme ça, à l'indienne. Et alors vous aurez mis votre main dans votre sac de coca, ou vous aurez même trié quelques feuilles, comme cela, négligemment, sur le tas, et puis vous les mettez dans la main, comme ça, et vous secouez, et vous les laissez tomber sur cette extraordinaire broderie qui est devant vous, et vous regardez les positions. Chacun va les regarder, il s'est passé quelque chose. Une feuille s'est posée sur une autre, celle-ci est plus belle. Sous la lumière de la bougie, tout à coup, vous voyez des choses se dessiner. L'imagination fertile de Jesus commence à rentrer dans la tête de Pablo, qui répond à Francisca. Hernan aura peut-être une femme dans l'année. Ronaldo, il est travaillé, il aime trop ce côté quechua. Il est fils de paysan, il a beau être un peu guide touristique, il vit à Puno. Non, il y a quelque chose d'étrange sur cette île. Hernan, il a vécu des mois et des mois à Lima. Il cherchait de l'argent, bien sûr. Mais quand on a dans son cœur un tout petit coin d'Amantani, au cœur du lac Titicaca, justement, on ne peut que revenir chez soi pour finir sa vie sur le Titicaca. Le soleil s'est levé juste au fond, là, entre 2 sommets, tout au fond du lac. Et petit à petit, d'abord la cordillère s'est allumée. Elle monte à plus de 6000, donc obligatoirement une ligne jaune s'est formée sur la droite. Toute la grande cordillère royale. Vous tournez votre regard sur 365 degrés, il n'y a que de l'eau, il n'y a que des îles, il n'y a que le Titicaca dans ça. Oui, dans son horizontalité absolue. Et puis vous montez vous-même, vous commencez à marcher, vous grimpez sur ces pierres, parce que partout les marches sont de pierre, les murettes sont de pierre, les champs sont entourés de pierre, et vous avez ces andenes, ces terrasses qui montent petit à petit, et et qui finissent par deux énormes cônes, comme si l'île avait deux seins. Et au bout de ces seins, d'un côté, vous avez un temple très curieux. Et vous montez comme dans une initiation. Chaque marche vous amène à une arche de pierre. Vous savez, ces arches qui sont tendues, un peu comme dans l'art roman. On a mis une pierre à côté d'une pierre à côté d'une pierre, et tout à coup, au milieu, là, je viens de serrer mes poings, tac, ça tient. Et vous passez la première arche. Vous montez toujours la deuxième arche, la troisième arche, les trois niveaux du monde, vous venez de les connaître et vous arrivez tout à coup devant une porte qui est fermée. La fête n'est pas aujourd'hui, on a fermé la porte avec des pierres, mais vous avez un véritable cube de pierre, une sorte de cadre parfait. Mais là, ce qui vous a touché, c'est qu'au moment où vous étiez là devant, le lac était non seulement sous vos pieds, mais vous dominiez le monde. Au centre, une cour, et vous entendez les tambours, les flûtes, les cérémonies. C'est là les plus forts moments de bachatata. Est-il masculin? Est-il féminin? Non, il est à l'image de la dualité. De l'autre côté, vous l'apercevez déjà, le deuxième sein, celui de Pachamama. Il n'a pas la même forme, il est un peu hexagonal, avec au centre une grotte, sous un rocher, avec en même temps un phallus étrange posé de côté, sculpté dans la pierre. Il y a à côté encore une espèce de pyramide de pierre, comme un chorten à la tibétaine. Mais lorsque vous êtes à côté, une fois de plus, l'île entière vous apparaît. Elle est sous vos pieds comme un tapis incroyable qui chute petit à petit en terrasse, et tout autour encore ce bleu. On est obsédé, je l'ai dans la tête, du jaune. Du jaune, du bleu et du bleu.